pour votre invitation. Et c'est réellement un plaisir de présenter à vous tous un petit peu les recherches que nous conduisons en astrophysique. Alors, l'astrophysique, ça paraît toujours un peu ésotérique quand on commence quand on en entend parler dans la presse ou autre. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que c'est un domaine extrêmement riche de la science qui touche à beaucoup de sous-disciplines. Et je voudrais piquer votre curiosité aujourd'hui pour que, en tant que jeune, vous disiez, ah bah tiens, là, il y a des choses super intéressantes qui se passent, et pourquoi pas que ça déclenche chez vous une curiosité qui va être suivie par essayer de regarder dans les bouquins comment l'univers évolue au cours du temps, et éventuellement que vous ayez l'intérêt pour les sciences qui ne soit pas seulement livresque, mais qui soit ancré dans un peu la réalité du terrain. Donc, ce que je vais essayer de vous faire, c'est un panorama de l'évolution de l'univers. L'univers, c'est tout ce qui nous entoure, et ça s'étend extrêmement loin dans l'espace. Donc, je vais vous montrer un petit peu quelles sont les distances qui sont en cause. Mais ce que je voudrais aussi vous faire passer comme message, c'est qu'il y a une vraie démarche dans la recherche. La recherche, ce n'est pas seulement des questionnements de scientifiques qui lucubrent des questions diverses et variées, c'est réellement pour comprendre d'où l'on vient, pour réellement développer une méthode de travail qui est complètement basée sur l'observation et sur la théorie. Et c'est comme ça que tout notre socle fondamental de connaissances évolue au cours du temps. Si vous êtes aujourd'hui avec des téléphones portables qui ont des petites caméras à l'intérieur, c'est parce qu'il y a des astronomes il y a 30 ans qui ont développé les petits capteurs que vous avez maintenant. Donc la recherche fondamentale, ça vient irriguer tout le développement de la science, de la technologie, et au final faire en sorte que l'humanité progresse. C'est tout ce continuum qui s'appuie sur la recherche fondamentale. Donc je vais essayer de vous montrer quelle est l'histoire de l'univers. Est-ce que l'univers est en expansion? Question qui se pose souvent. Quand et comment se forment les galaxies? Je vous montrerai ce que c'est qu'une galaxie et quelle est l'histoire de ces bêtes. Comment est distribuée la matière dans l'univers? Vous en êtes une représentation, mais vous n'êtes pas les seules formes de matière dans l'univers. Je vais vous montrer que l'astronomie se base sur l'observation, la mesure, qui est à la base du questionnement scientifique. On a besoin de mesures pour comprendre. Et en face de ces mesures, on met de la théorie. Et c'est cette comparaison observation et théorie qui fait progresser la connaissance. Et un des outils fondamentaux qu'on utilise aujourd'hui, c'est l'outil des sondages. Alors vous connaissez bien les sondages de population. Dans les journaux ou à la télé, vous en entendez toujours parler. On sonde des populations. Et on pose des questions à ces populations. Et nous, on fait la même chose, mais pour des galaxies. La population d'intérêt à qui on pose des questions, c'est une galaxie. Donc on demande à ces populations de galaxies, quel âge vous avez, où est-ce que vous habitez, quels sont vos collègues. Donc on pose un certain nombre de questions qui nous permettent de comprendre comment les choses évoluent. Et ces sondages nous permettent de remonter le temps pour parcourir ce livre d'histoire de l'univers. Alors, juste quelques définitions. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe et des lois qui le régissent. Et donc, on a une description physique de l'univers. On a des lois physiques qui permettent de décrire cet univers. La cosmologie utilise ces lois de la physique pour décrire l'univers. Donc, quand on parle du Big Bang, je vous en parlerai tout à l'heure, depuis le Big Bang jusqu'à maintenant, il y a une série d'équations qui existent, que l'on peut écrire, qui permettent de décrire cette évolution. Alors ça paraît extrêmement prétentieux de se dire qu'on est capable, avec des équations, de décrire tout l'univers, mais c'est notre façon de décrire ce qui nous entoure. On a les mathématiques, la physique, qui nous permettent d'appréhender des lois, et ces lois nous permettent de décrire ce qui est autour de nous. Alors, je mets ensuite une différente couleur, parce qu'il y a d'autres disciplines, comme la cosmogonie, qui vise à établir une théorie de la création de l'univers sur des bases philosophiques ou religieuses, et la science s'arrête entre la cosmologie et la cosmogonie. C'est-à-dire que vous allez sûrement me poser la question, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Je vais vous référer à la cosmogonie, je vais vous référer à la philosophie, à la religion. Le scientifique regarde ce qu'il peut regarder, ce à quoi il a accès. Et donc notre univers de scientifique, c'est l'univers qui est aujourd'hui observable et celui qu'on peut appréhender avec les lois physiques. Alors peut-être que dans 1000 ans, ce qu'on peut appréhender sera différent, mais aujourd'hui, ben, on a une description, on a des lois physiques, et c'est ça que l'on essaye de tester pour voir à quel endroit notre modèle est faux, à quel endroit les lois physiques sont fausses et méritent d'être développées avec de nouvelles théories. Alors notre modèle courant, c'est celui-ci. C'est un petit peu coupé en haut, là, donc le Big Bang. On pense qu'il est né il y a 13,7 milliards d'années. Alors c'est précis, c'est extrêmement distant dans le passé, hein, 13,7 milliards d'années, mais cette mesure résulte d'observations qui ont été faites sur un certain nombre d'observables du ciel que je vous présenterai tout à l'heure. Donc depuis ces 13,7 milliards d'années, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées, que l'on est capable de décrire, comme je vous le disais, par des équations. Mais les équations ne nous permettent pas de tout faire, puisque dans l'univers, dans sa structure, il y a un certain nombre d'habitants qui sont apparus au cours du temps. Les premières étoiles se sont formées il y a à peu près 13,5 milliards d'années. Les premières galaxies, très peu de temps après, il y a 12-13 milliards d'années. Notre système solaire, donc l'ensemble des planètes que l'on connaît autour de notre Soleil, c'est seulement 5 milliards d'années. Dans le passé, etc. Il y a encore des objets en formation en ce moment, des étoiles, des galaxies qui ont seulement, au sens astrophysique, seulement quelques millions d'années d'âge, donc extrêmement jeunes. Alors, le cadre théorique permet d'expliquer depuis les premières secondes infimes après le Big Bang jusqu'à maintenant. Vous voyez ici représenter la métrique de l'univers. Vous avez l'habitude de l'espace à trois dimensions. L'espace qui représente l'univers est un espace à quatre dimensions, hein, trois dimensions d'espace et une dimension de temps. Donc ça rend les choses un petit peu plus complexes au niveau de la compréhension. Ça nous permet une description qui est assez fidèle par rapport aux observations. Donc je vais vous parler souvent de distance en milliards d'années. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est qu'une année-lumière. Alors, il y a un certain nombre de questionnements qui se posent. Donc, on a des traces de ce Big Bang il y a 13,7 milliards d'années. On voit que l'univers est en expansion, c'est-à-dire qu'on le mesure, c'est pas un postulat, on le mesure. Et donc, une des questions, ça va être quel est le devenir de l'univers ? Et ce devenir dépend du contenu de l'univers. Hein, on a l'image du ballon en expansion. Le ballon se gonfle. À un moment, s'il n'y a plus suffisamment d'énergie pour gonfler le ballon, il va se dégonfler. Bon, c'est un peu pareil pour l'univers. Si son contenu en matière et en énergie n'est pas suffisant, il peut continuer à s'étendre de façon indéfinie, alors que si son contenu en matière est grand, il va se recontracter sous son propre poids pour redevenir vers ce qu'on appelle un Big Crunch, c'est-à-dire l'inverse du Big Bang. Donc on essaye de regarder comment la taille de l'univers évolue en fonction du temps. C'est des unités juste comparatives. Et dépendant du contenu, ces symboles un petit peu ésotériques, c'est simplement la densité de matière dans l'univers. Donc si la densité de matière n'est pas suffisante, l'univers va être en expansion infinie, alors que si il y a suffisamment de matière dans l'univers, il va se recontracter. Vous voyez la taille de l'univers qui passe par un maximum, puis qui redécroît ensuite. Donc c'est ce qu'on essaye de mesurer quand on travaille dans le domaine de la cosmologie. Il y a un certain nombre de paramètres qui décrivent donc, le modèle de l'univers, le modèle cosmologique qui contient les équations, les lois physiques, ce qu'on appelle le modèle du Big Bang, qui est le cadre principal. Et ce modèle est essentiellement basé sur ce contenu en matière. Donc on essaye de faire un recensement complet de la matière dans l'univers. Alors ce qui est vraiment très choquant, et c'est apparu seulement dans les 10 dernières années, c'est qu'on se rend compte qu'on connaît très très mal ce contenu. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 95% du contenu de l'univers dont on voit les effets, mais dont on n'a pas la moindre idée de ce que ça peut être. Donc c'est un domaine de recherche qui est extrêmement fertile en ce moment, parce que ce camembert vous représente ce que l'on connaît. Donc vous êtes dans cette petite partie du camembert, donc c'est les éléments lourds, c'est les étoiles, le gaz, la matière qui est ce qu'on appelle froide. Donc l'ensemble de ce que vous voyez de vos yeux, la nuit, vous regardez le ciel, tout ça, c'est dans cette petite portion de camembert, 5% de la matière. 95% est constitué de 23% de matière noire, dont on voit les effets, c'est-à-dire que cette matière a un pouvoir d'attraction via sa gravité. Et donc on voit son attraction, on peut la peser, hein, donc ça arrive à 23% de la masse de l'univers. On ne sait pas quel est le constituant de cette matière. Donc il y a des recherches actives pour trouver de nouvelles particules qui pourraient être responsables de cette masse manquante. Et puis il y a 72% du contenu de l'univers que l'on appelle l'énergie noire et dont, encore une fois, on n'a pas encore la moindre idée de ce que ça peut être. C'est-à-dire qu'on voit son effet parce que l'univers est en expansion, mais en expansion accélérée. Et cette accélération de l'expansion s'est produite dans les derniers 2 ou 3 milliards d'années dans la vie de l'univers. Et donc là encore, on n'a pas encore trouvé de raison particulière. Et il y a deux possibilités. Soit il faut modifier encore une fois les lois de la physique. Hein, vous avez sûrement regardé ça, vous allez le regarder bientôt, l'évolution des lois de la physique. On est passé par un certain nombre de lois. Les lois qui ont été décrites par Newton à un moment ont été remplacées par des lois qui ont été décrites par Einstein, où la relativité est venue remplacer un certain nombre de lois fondamentales. Donc on est en train de se poser la question si nos lois actuelles ne demandent pas encore une nouvelle révision, une nouvelle théorie qui va englober les théories précédentes, mais qui va les rendre plus générales et qui va permettre de comprendre ces 72% d'énergie inconnue. Ou alors une autre possibilité, c'est qu'il y a des forces physiques que l'on n'a pas encore identifiées, qui jouent aux très grandes échelles de la taille de l'univers. Ou encore une autre possibilité, c'est d'avoir des particules ésotériques, extrêmement compliquées, qui sont éventuellement prévues par certaines théories, dont on n'a pas encore vu la trace, mais qu'il serait intéressant de trouver. Donc c'est vraiment... on a l'impression que la science est un domaine figé, mais là, juste sur ce diagramme-là, je vous montre que la science est un domaine en pleine évolution, et que peut-être dans 5 ans, 10 ans, 50 ans, on aura besoin d'une nouvelle théorie qui nous permettra de mieux comprendre l'univers que l'on observe. Alors, quelles sont les évidences que l'univers est en expansion ? Une des premières évidences, c'est que quelle que soit la direction du ciel où vous regardez, la température du ciel est de 3 Kelvin. Le Kelvin est une unité qui mesure la température absolue. Le zéro absolu Kelvin, c'est moins 273 centigrades. Donc, quelle que soit la direction du ciel où vous regardez, le ciel a une température de 3 Kelvin, donc 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Et ça a été découvert par hasard, c'était découvert par Penzias et Wilson qui travaillaient sur des antennes radio et puis ils avaient un bruit dans leurs antennes, ils ne comprenaient pas d'où ça venait, donc ils ont trafiqué les détecteurs, les récepteurs, etc. pour trouver si c'était un problème avec leur antenne. Puis ils se sont rendus compte d'une évidence, c'est que quel que soit l'endroit où leur antenne était pointée, ce bruit était toujours constant. Et ça a été confronté avec les théories qui étaient développées sur la base de la théorie de la relativité, la théorie d'Einstein, qui a montré qu'effectivement, c'est une prédiction forte du modèle du Big Bang, c'est que le Big Bang, après cette explosion, la température de l'univers était extrêmement élevée au moment du Big Bang, mais au fur et à mesure de l'expansion, la température décroît, et vous pouvez prédire précisément qu'après 13,7 milliards d'années, la température du fond cosmologique, du fond de ciel, est à 2,7 Kelvin. Donc c'est une prédiction exacte d'un modèle qui est vérifié exactement par l'observation. Donc c'est un des supports forts de la théorie du Big Bang. Alors dans cette carte-là, vous voyez que c'est une carte du ciel, hein, c'est une sorte de projection du ciel sur ce planisphère-là. Vous voyez qu'en fait, la température moyenne, c'est 2,7 Kelvin, mais vous voyez des grumeaux là-dedans. Et ces grumeaux représentent des variations de température de 1 cent millième. Et ces fluctuations de 1 cent millième de température vont constituer les grumeaux, les points d'assemblage de toutes les structures de l'univers. C'est-à-dire que les galaxies, les filaments de galaxies, les amas de galaxies, les étoiles, tout ça est codé dans ce rayonnement cosmologique que l'on observe sur tout le ciel. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce, ça représente le génome de l'univers, puisque dès les premiers instants de l'univers, sa destinée, en quelque sorte, a été écrite. Alors ça fait l'objet d'un prix Nobel en 2006 à John Mather et George Smoot qui ont mesuré, obtenu cette carte. C'est le résultat d'un satellite qui s'appelait WMAP, qui a observé le ciel donc à des longueurs d'onde particulières pour trouver pour mesurer les variations de température. Alors ces germes de galaxies, c'est un petit peu coupé là, le haut de l'image, donc les germes de galaxies et de grandes structures donc sont comprises dans ces fluctuations de température du fond cosmologique, donc un cent millième de degré comme je vous le disais. Et donc ça évolue au cours du temps, c'est-à-dire que c'est simplement sous l'action de la gravité, chacun de ces grumeaux a une masse un peu différente, et au fur et à mesure, au cours du temps, la gravité fait son effet, et puis là, les structures vont grossir. C'est ce qu'on appelle la formation hiérarchique des structures. Et donc au fur et à mesure, il y a des structures qui se créent pour former des très belles galaxies, comme cette galaxie spirale que vous voyez à droite. Alors l'expansion de l'univers s'accélère, ça c'était un résultat en 1999, qui a été mesuré en utilisant des étoiles, des traceurs qui s'appellent des supernovas, c'est des étoiles en fin de vie qui explosent. Et il se trouve qu'au moment de leur explosion, elles ont toutes la même luminosité. Donc c'est comme un phare de luminosité connue, et ce phare, observé à différentes distances dans l'univers, permet de retracer la façon dont l'univers évolue. Et ces mesures ont été obtenues et de façon surprenante, les gens ne s'y attendaient pas du tout, donc ont montré qu'on avait besoin d'une accélération, on avait besoin d'une expansion de l'univers en accélération pour expliquer les observations de ces supernovas. Donc là encore, c'est une observation fondatrice sur le modèle actuel de l'univers. C'est un diagramme qui vous montre donc la luminosité de ces étoiles en fonction de la distance. Je vous parlerai de ce fameux Z redshift un peu plus tard. Donc leur luminosité, on voit que si chaque point bleu est une mesure d'une de ces supernovas à différentes distances. Et ce que l'on cherche à distinguer, c'est ce modèle d'univers en trait plein ici contre ce modèle-ci qui est juste à côté. Et vous voyez que la différence est ténue, mais elle est statistiquement confirmée. Et donc on est au-delà de ce qui est prévu par cette courbe-là qui représente l'expansion de l'univers normal sans accélération. Alors les galaxies semblent s'éloigner les unes des autres, ça a été montré dès le début du XXe siècle par Edwin Hubble. Donc là vous voyez un spectre d'une galaxie, donc la lumière est dispersée comme dans un arc-en-ciel depuis le bleu vers le rouge pour différentes galaxies. Et vous remarquez peut-être ici, vous avez deux signatures dans ces spectres, et ces signatures sont à différentes positions dans le spectre, elles sont de plus en plus vers le rouge, et c'est un effet de ce qu'on appelle le décalage vers le rouge de l'expansion de l'univers, qu'on est capable de mesurer la façon dont les galaxies s'éloignent les unes des autres. Alors pourquoi on se retrouve avec ce type de décalage? C'est tout simplement l'effet Doppler, que vous avez peut-être vu ou que vous allez voir bientôt. Quand vous avez une ambulance qui vient vers vous, vous avez l'impression que le son émis par l'ambulance est très aigu, et quand l'ambulance s'en va, s'éloigne de vous, le son est plus, beaucoup plus grave. C'est simplement l'effet Doppler, c'est-à-dire que le fait que l'émetteur soit en déplacement va faire en sorte que les ondes vont être déplacées. Donc là, ce qu'on observe pour les galaxies, c'est exactement la même chose. Si vous avez un spectre au repos, donc la lumière qui est dispersée du bleu vers le rouge, et que vous avez une signature qui est identifiée en laboratoire, donc par exemple ces deux raies qui sont deux raies du calcium, donc ces deux signatures spectrales, plus la galaxie va s'éloigner de vous, plus leur position observée va être décalée vers le rouge, et c'est simplement en mesurant le décalage entre la longueur d'onde observée et la longueur d'onde émise que vous allez pouvoir trouver la vitesse de cette galaxie. Et il se trouve que dans l'espace-temps de l'univers, la vitesse d'une galaxie est liée à sa distance. Et donc c'est un outil extrêmement précieux pour nous parce qu'on mesure la vitesse d'une galaxie et on a immédiatement sa distance. Donc quand je vous dis que je parle de 13 milliards d'années-lumière, c'est parce que j'ai une galaxie, je mesure sa distance, 13 milliards d'années-lumière, c'est en observant son spectre que je peux remonter à effectivement sa position dans l'espace. Alors on compte beaucoup en années-lumière, je vous ai dit le Big Bang, il est né il y a 13,7 milliards d'années, c'est en fait qu'on observe la lumière venant du Big Bang 13,7 milliards d'années après. Donc la lumière a une vitesse de propagation qui est finie, 300 000 km par seconde. Une année-lumière, c'est simplement la distance qui est parcourue par la lumière en une année, donc 300 000 km par seconde, par le nombre de secondes dans une année, je vous laisse faire le calcul. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de kilomètres, une année-lumière. Donc c'est quand on parle en année-lumière, pour nous c'est une manière de simplifier, on ne peut pas parler en kilomètres, parce que les kilomètres, simplement, on se traînerait des puissances de 10 qui sont difficiles à écrire, alors que l'année-lumière est une unité un peu plus facile à manipuler. Alors, puisqu'on est capable de modéliser l'univers, d'avoir toutes les lois qui régissent son évolution, du moins ce qu'on pense actuellement, on est capable de prédire l'évolution de l'univers, et on est capable de mettre toutes ces équations dans un superordinateur, on fait tourner le superordinateur, et on modélise l'univers. Donc quand on fait ça, on a la possibilité ensuite de changer un petit peu les ingrédients qui rentrent dans le modèle, et de voir comment les modèles donc, d'univers, basés sur la théorie du moment, diffèrent ou sont d'accord avec les observations. Donc c'est cette confrontation entre ces modèles et ces observations qui nous permet d'évoluer. Donc là, c'est une des plus grosses simulations qui a été faite de l'ensemble du ciel. Donc quand on regarde à très grande échelle, on a l'impression que c'est isotrope et homogène. Ça, c'est une propriété de l'univers. Quand vous regardez à très grande échelle, tout se ressemble, il n'y a pas de différence fondamentale de densité de matière dans l'univers. Par contre, quand on commence à zoomer, on voit qu'en fait, c'est pas si homogène que ça. On voit se dessiner des filaments et des endroits qui sont plus vides. Et donc, c'est cette structuration, c'est sa structuration de l'univers en grande structure qui est en fait directement liée au contenu de l'univers, dépendant du contenu en matière. Ces grumeaux dont je vous parlais au départ, eh bien, vont évoluer vers ces filaments et vers ces vides de façon différente. Et c'est en observant cette distribution, on est capable de remonter au modèle cosmologique. Alors si ça veut bien démarrer. Voilà, donc ça c'est une simulation qui vous montre, donc on part de ces grumeaux primordiaux juste après le Big Bang, on laisse tourner l'ordinateur, et puis vous allez voir au fur et à mesure la matière se structure. Avec la lumière ambiante, on ne voit pas forcément les choses au début. Donc là, vous voyez que la matière commence à s'organiser, à se regrouper autour des plus grosses condensations. Vous voyez les filaments qui se dessinent, vous voyez les structures qui se dessinent de façon de plus en plus claire pour arriver avec à peu près ce que l'on observe actuellement. Les modèles reproduisent ce qui est observé à l'instant T, aujourd'hui. Par contre, ce que les modèles font moins bien, c'est ils ont du mal à reproduire ce que l'on observe il y a 4 milliards d'années, 5 milliards d'années, 10 milliards d'années dans le passé. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est vraiment d'obtenir des observations de l'univers à très grande distance qui sont suffisamment précises pour que l'on puisse confronter ces modèles aux observations. Vous voyez, la texture de l'univers est extrêmement riche. C'est une simulation, et donc on essaye d'obtenir des observations qui soient aussi fines que ce qu'on est capable de faire dans un ordinateur. Alors l'ordinateur a beaucoup de limitations aussi. Là, ça représente près de 2 mois de calcul sur un superordinateur, donc c'est assez énorme comme temps de calcul. Et on n'est pas capable de résoudre des unités qui sont de la taille d'une étoile. On est capable seulement de résoudre des unités. Ce que vous voyez, chaque point, en fait, c'est une galaxie. Donc la puissance de calcul des ordinateurs aujourd'hui n'est pas suffisante pour nous permettre de simuler l'ensemble des constituants de l'univers. Donc quand on change les ingrédients de ces modèles, ça nous donne différentes prédictions en fonction du temps. Donc là, vous avez en haut le temps, à droite, c'est maintenant, à gauche, c'est à peu près il y a une dizaine de milliards d'années. Et vous voyez différents modèles, alors le lambda CDM, le SCDM, etc. Je vous passe les détails. Mais ce que vous voyez clairement, c'est que à ce redshift 3, donc il y a à peu près 10 milliards d'années dans le passé, les différents modèles vous prédisent une structuration de l'univers qui est différente. Donc ce que l'on essaye de faire, c'est de mettre en face de chacune de ces époques, encore une fois, des observations suffisamment précises. Alors, je vais peut-être passer ça. Donc les galaxies se forment dans ces grandes structures. Une galaxie, vous en connaissez au moins une, c'est la Voie lactée qui traverse le ciel quand vous regardez en été. D'ailleurs, en ce moment, en automne, on la voit très bien aussi. Donc c'est notre galaxie que l'on voit par la tranche puisqu'on est dedans. Donc ça vous donne cette bande qui traverse le ciel. Et des galaxies dans l'univers, il y en a des milliards. Hein, si vous regardez la Lune, la prochaine fois que vous voyez la Lune, vous dites que derrière la Lune, dans l'univers, il y a plusieurs milliers de galaxies comme notre Voie lactée. Derrière ça, hein. Donc dans une galaxie comme notre Voie lactée, il y a plusieurs milliards d'étoiles. C'est ce qui donne toujours le tournis. Hein. Donc il y a des milliards de galaxies avec des milliards d'étoiles. Alors une galaxie va se former dans ces grandes structures, va se former avec un certain nombre de contraintes et avec un certain nombre d'interactions qui va la forger au cours du temps. Donc il y a un certain nombre de phénomènes physiques. Le gaz qui est chaud initialement au Big Bang se refroidit, tombe sur la galaxie centrale. Il y a ce que l'on appelle des fusions entre galaxies. Hein, il y a du cannibalisme. Une grosse galaxie va attirer une petite galaxie et puis l'ingérer. Il y a des effets de marée, il y a du chauffage gravitationnel. Bon, il y a plein de phénomènes physiques qui sont répertoriés. Et ce que l'on ne sait pas exactement, c'est comment tous ces phénomènes physiques vont se conjuguer pour former les superbes galaxies que l'on observe aujourd'hui. Donc voilà des exemples d'images qui sont obtenues avec le très grand télescope du Chili, un télescope européen qui est le plus grand du monde actuellement. Donc ce que vous voyez à droite, par exemple, c'est deux galaxies qui sont en train de fusionner. Donc il y a le cœur de la première galaxie qui est ici, et le cœur de la seconde qui est ici, et ces deux galaxies qui sont en train de fusionner pour n'en former qu'une seule, après quelques dizaines de millions d'années ou quelques centaines de millions d'années d'interaction. Donc c'est pas immédiat comme processus, mais c'est extrêmement destructeur et ça reformate complètement la galaxie en question. Alors je vous ai parlé de sondage au début. Donc sonder l'univers, c'est une méthode d'exploration qui est maintenant robuste. Donc grâce à ce fameux décalage vers le rouge, donc à ce redshift, on a la chance, nous astronomes, de pouvoir remonter le temps. On est un peu comme des archéologues. Plus vous observez loin, plus vous observez le passé. Ou inversement, plus vous observez loin, plus vous observez plus près du Big Bang. Et donc cette méthode de remonter dans le temps, nous la pratiquons tous les jours. Et nous observons des galaxies de plus en plus faibles dans de très grands volumes d'univers qui nous permettent de réaliser une cartographie de la distribution de ces galaxies. Et un des éléments clés, c'est d'observer un nombre important de galaxies pour que ça soit représentatif de la population. Quand il y a un sondage sondage politique qui est publié, c'est sur un nombre de personnes suffisamment grand, sans ça le sondage n'a pas de sens. Donc il faut que la statistique du sondage soit robuste. Alors comment on fait ça? Donc on a plusieurs étapes qui nous permettent d'aller mesurer la position et la distance de ces galaxies. Une des premières étapes, c'est simplement de réaliser des images du ciel. À partir de ces images, on obtient des paramètres qui sont simples mais fondamentaux. La position de la galaxie en question, sa luminosité, que l'on nomme magnitude en astronomie, ses couleurs, sa forme. Donc pour faire ça, on a par exemple le télescope franco-canadien à Hawaï, qui est un télescope de 3,60 m de diamètre, qui a une caméra que vous voyez en haut. Là, c'est l'équivalent de ce que vous avez dans vos appareils photo, mais avec, au lieu d'avoir 16 millions de pixels, là, il y en a à peu près 250 millions de pixels. Les pixels que vous voyez sur vos appareils de photo, ça vient de chez nous, mais après quelques itérations. Alors, ces images, typiquement, on observe plusieurs nuits d'affilée pour regarder des objets extrêmement profonds. Voilà, je ne sais pas si c'est possible d'éteindre juste les lumières qui sont ici. Je ne sais pas s'il y a cette possibilité. Parce que là, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais donc là, ça, c'est une image extrêmement profonde du ciel qui est obtenue avec cette caméra que je vous ai juste montrée. C'est une toute petite partie d'une image qui représente à peu près un vingtième de la taille de la Lune. Et chaque point que vous voyez, alors ça s'est amélioré, merci, mais vous ne voyez pas forcément encore l'ensemble des détails que l'on peut voir sur un écran d'ordinateur. Simplement, la traduction par le projecteur n'est pas forcément idéale. Chacun des petits points que vous voyez est une galaxie. Hein, une galaxie comme notre Voie lactée, avec plusieurs milliards d'étoiles. Il y a aussi quelques étoiles de notre galaxie qui sont là par projection. Hein, c'est celles qui ont des aigrettes. Là. En fait, il faut qu'on puisse traverser notre galaxie pour voir les galaxies qui sont derrière. Alors, pour ceux qui sont intéressés, à la fin, si vous voulez voir l'image sur l'ordinateur, c'est quand même beaucoup plus impressionnant que sur l'écran. Alors, plus on obtient des images profondes, plus on voit cette multitude de galaxies. Le problème, c'est que quand vous regardez une image comme ça, vous êtes incapable de dire quelle est la distance de chacune de ces galaxies. Et donc, une des façons de faire, c'est de mesurer ce fameux décalage vers le rouge, ce fameux redshift, pour aller à chacune de ces galaxies, mesurer sa distance réelle. Alors c'est ce que l'on fait avec de la spectroscopie. Donc la spectroscopie, c'est simplement la façon de mesurer le spectre de chaque objet. Un spectre, c'est l'énergie qui est émise par un corps en fonction de sa longueur d'onde. Hein, donc on sait que dans le laboratoire, l'hydrogène va émettre une radiation à une longueur d'onde très précise, précisément 6562 angstroms au laboratoire, c'est observé. Donc l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, tous les corps qui sont observés en laboratoire vont émettre un certain nombre de signatures précises que l'on peut observer dans un spectre. Donc c'est ces signatures que l'on va chercher et qui vont nous permettre, par comparaison entre la longueur d'onde observée et puis ce qui est connu au laboratoire, donc de retrouver la distance. Alors c'est un petit jeu que l'on joue qui nous occupe beaucoup. Donc on a ces images, ces fameuses images que je vous ai montrées, ces images très profondes. On sélectionne un certain nombre de candidats, c'est les petits carrés jaunes. Et pour chacun de ces candidats, on va rentrer leur lumière dans un spectrographe qui va mesurer pour chacun de ces objets son spectre. Et dans son spectre, on va avoir la distance, on va avoir des paramètres assez fondamentaux comme l'âge des étoiles constituant cet objet, son contenu en gaz, son contenu en poussière. Donc c'est vraiment une analyse précise que l'on peut faire, même sur des objets qui sont extrêmement distants, on arrive à mesurer leur composition assez précisément dans les différents éléments principaux. Alors une fois qu'on a cette distance, on peut faire une cartographie. Alors cette cartographie, elle est assez précise maintenant dans ce qu'on appelle l'univers local, donc avec nous comme observateurs au centre, il y a une bulle d'à peu près 2 milliards d'années de retour dans le passé où maintenant on a une carte assez précise. Donc il y a eu deux sondages qui ont permis de faire ça, le sondage de DZEF et le sondage Sloan, qui ont été faits donc, avec des télescopes spécialisés. Ce que vous voyez juste en bas là, chaque petite fibre, c'est des fibres optiques, chaque fibre orange est en fait positionné sur une galaxie et permet d'amener la lumière de cette galaxie dans un spectrographe pour pouvoir obtenir ce fameux spectre. Et donc on mesure d'une seule fois, avec ce type de télescope, on mesure une seule fois 600 de ces galaxies. Et donc en faisant un pavage du ciel, on arrive à avoir une cartographie complète de l'ensemble du ciel. Alors voilà ce que l'on voit. Donc vous imaginez que vous êtes au milieu, là où il y a marqué présent, et puis on a regardé d'un côté du ciel et de l'autre côté du ciel. D'accord ? Et c'est une projection, parce que on a une carte à trois dimensions, mais là c'est une projection dans un certain plan. Donc ce que vous voyez immédiatement, c'est que c'est pas homogène. Il y a des endroits où il y a de fortes concentrations de matière, et puis des endroits où il y a des vides. Donc ça vient en écho de ce que je vous ai montré tout à l'heure, des simulations sur ordinateur. Donc là, on a l'univers réel, et cette mesure d'univers réel nous permet de confronter avec la cosmologie. Alors ça, c'était l'univers local. Ce que l'on fait en particulier dans notre laboratoire à Marseille, c'est d'aller vraiment très loin, de remonter les tranches de temps pour aller mesurer des galaxies extrêmement distantes. Et le record aujourd'hui, c'est des galaxies qui sont à 13,2 milliards d'années dans le passé, donc très peu de temps après le Big Bang. Et on est dans une quête constante d'aller trouver ce que l'on appelle les premiers objets, ceux qui vont être vraiment formés juste après le Big Bang, donc les premières étoiles qui se forment, les premières galaxies. On ne les a pas encore trouvées, c'est pour ça qu'on est sans cesse en train de développer de nouveaux télescopes pour aller chercher ces fameux objets. Donc on n'en est pas très loin, et on est capable d'aller donc mesurer des populations de galaxies jusqu'à 12 milliards d'années, avec ce très grand télescope qui est au Chili, donc vous voyez un des instruments qu'on a construit à Marseille, qui s'appelle VIMOS. Donc tout ça, c'est un ensemble d'optique, de mécanique et d'électronique, donc réalisé par des ingénieurs et techniciens chez nous, qui est donc mis au foyer du télescope pour analyser cette fameuse lumière venant de ces galaxies. Donc on est capable de mesurer à peu près 1000 galaxies d'une seule fois. Cœur d'un télescope, dans cet observatoire, il y a 4 télescopes qui font chacun 8 mètres de diamètre. Donc ça représente les plus grands miroirs qui ont été réalisés jusqu'à présent. Du côté américain, il y a 2 télescopes de 10 mètres de diamètre, mais qui sont faits en mosaïque de miroirs, alors que là, c'est des miroirs qui sont d'un seul tenant. Vous voyez une réflexion qui est en bas à gauche, qui est en fait une réflexion sur le miroir primaire de ce télescope. Donc il y a un jeu de miroirs qui permet d'observer le ciel qui est en haut. Le miroir principal de 8 mètres réfléchit la lumière sur un miroir secondaire, et tout ça rentre dans cet instrument qui va disséquer cette lumière. Donc ça pèse, l'instrument lui-même pèse à peu près 4 tonnes, le télescope en pèse à peu près 200. Donc on est à une précision de meilleur, mieux que le micron pour suivre les galaxies que l'on observe. Voilà une image que l'on obtient avec ce spectrographe. Chaque petit rectangle que vous voyez est en fait un de ces fameux spectres dont je vous parlais. Un spectre qui va de une longueur d'onde verte jusqu'à une longueur d'onde infrarouge. Et dans ce spectre, vous voyez une trace, la trace verticale là, qui est donc la signature dans ce spectre d'une galaxie. Et dans ce spectre, eh bien, quand on extrait l'information, on est capable de retrouver les fameuses signatures spectrales. Donc la longueur d'onde depuis le bleu jusqu'au rouge. Et là-dedans, il y a un certain nombre de signatures. Vous voyez le flux émis par l'objet en fonction de cette longueur d'onde. Donc depuis l'ultraviolet, les longueurs d'onde visibles, les longueurs d'onde rouges. Vous voyez que c'est pas continu. Il y a des variations dans la luminosité. Il y a moins de luminosité émise à ces longueurs d'onde-là, plus dans l'ultraviolet. Ici, vous voyez une signature spectrale extrêmement forte. C'est l'arrêt 2 fois ionisé de l'oxygène. Ici, vous voyez une discontinuité. C'est une discontinuité qui est produite par le calcium. Quand vous continuez, vous voyez ensuite une autre signature qui est extrêmement forte, qui est ici l'arrêt de l'hydrogène. L'hydrogène étant l'élément le plus abondant dans l'univers. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à partir d'un spectre comme ça, on est capable de dire plein de choses. On est capable de donner l'âge de la galaxie, on est capable de trouver à peu près quelle est l'abondance des différents éléments, ça je vous en avais déjà parlé, donc d'avoir un petit peu une idée du temps qui a été nécessaire pour processer l'hydrogène primordial dans les différents éléments. Donc ça donne une idée du passé de cette galaxie, que l'on observe déjà une époque extrêmement reculée, mais on a aussi une indication de son passé en regardant ce spectre, en analysant ce spectre. Alors ça, c'est une des galaxies les plus lointaines qu'on a observées actuellement, qui est à peu près à 12,2 milliards d'années dans le passé. Vous voyez que les signatures là commencent à être bruitées. Hein, on a affaire à du bruit, le flux de ces objets est à peu près comparable à une bougie posée sur la Lune. Je sais pas si vous, c'est juste pour donner les échelles de grandeur. Cette galaxie-là, on l'a détectée avec un flux qui est équivalent à une bougie posée sur la Lune. Donc on a du bruit, parce que cet objet est très faible, mais on a des signatures. Donc là, il y a la signature du carbone 4 fois ionisé. Là, il y a la signature du silicium. Et donc on est capable de retrouver ces objets même de extrêmement loin dans l'univers. Alors voilà, ça c'est un des sondages qu'on a pu faire. Vous avez une carte de la zone du ciel qui a été observée. Tous les points noirs en arrière-plan, c'est toutes les galaxies qui ont été mesurées en imagerie. Tous les points bleus, c'est tous ceux pour lesquels on a pu mesurer ce fameux redshift, leur distance. Hein. Vous voyez la Lune par comparaison. Donc on observe des zones du ciel qui sont plusieurs de taille beaucoup plus grandes que la Lune. Alors là, donc là on est, vous imaginez l'observateur en bas à gauche. Donc on a en fait observé un cône d'univers. Hein, si je prends ce que je vous ai juste montré avant, et que je regarde en distance transverse et projetée, je me retrouve avec un cône d'univers qui couvre 5000, à peu près 10 000 milliards d'années-lumière. 10 000 millions d'années-lumière, pardon. Et donc ce que l'on voit là, dans la partie, j'ai pas de pointeur, c'est un peu difficile, on voit que aussi dans l'univers lointain, les galaxies ne sont pas distribuées de façon uniforme, mais qu'il y a des endroits qui sont plus vides, des endroits qui sont plus remplis. Donc encore une fois, on peut comparer cette distribution avec les modèles. Donc là, vous voyez ce cône d'univers qui est cassé en différentes tranches, d'âge de plus en plus reculé, jusqu'à à peu près 8 milliards d'années de retour dans le passé. Et donc vous voyez qu'à certains endroits, il y a plus de matière, des endroits, il y a du vide. Et ça, on met en face ces observations avec les simulations qui ont été faites sur différents modèles d'ordinateur. Alors pour finir, je voudrais juste vous montrer un petit peu quels sont les outils du futur qui vont nous permettre de continuer cette exploration de l'univers. Et je vais juste vous en présenter trois. Le télescope James Webb, qui est le successeur, enfin qui va être le successeur du télescope Hubble, que vous connaissez tous, hein, qui produit ces images magnifiques dont certaines je vous ai montrées. La manip Euclide, qui est un satellite qui est en préparation par l'ESA, qui est l'agence spatiale européenne. Et puis le Extremely Large Telescope, donc le télescope extrêmement grand, qui est en préparation par l'ESO. L'ESO, c'est European Southern Observatory, c'est l'observatoire européen austral qui est donc au Chili. Et donc il y a un télescope en préparation qui est de taille encore plus grande que les précédents. Alors JWST, c'est un télescope qui va être dans l'espace. Alors pourquoi on va dans l'espace et pourquoi on va au sol ? Dans l'espace, on s'affranchit complètement de l'atmosphère terrestre. Donc ce léger bouillonnement que vous voyez en été au-dessus d'une route, nous, astronomes, ça nous gêne en permanence, hein, quel que soit le site sur Terre. Donc on s'affranchit de ce bouillonnement en allant dans l'espace. Par contre, dans l'espace, on est limité par la taille des télescopes que l'on peut envoyer. Le télescope Hubble fait à peu près 2 mètres de diamètre. Là, le télescope James Webb qui va être lancé en 2014 aura un diamètre de 6,50 m. Donc il ne sera pas aussi grand que les télescopes du Chili, mais qui commencera déjà à avoir une taille impressionnante. Il observera dans l'infrarouge, simplement pour suivre le décalage vers le rouge de ces fameuses galaxies, donc d'observer dans l'infrarouge pour trouver les premières étoiles, les premières galaxies dans l'univers. Donc observer à des très grandes distances, à des redshifts de l'ordre de 10 ou plus, c'est-à-dire 100 millions d'années ou 150 millions d'années après le Big Bang, 13,7, 13,6, 13,5 milliards d'années dans le passé. Et d'observer une époque que l'on appelle la rayonisation, c'est un moment où dans l'univers, les atomes deviennent ionisés et permettent de laisser en fait passer la lumière. C'est un phénomène que l'on n'a pas encore observé, mais qui est prédit par les modèles. Alors détecter les premiers objets dans l'univers, c'est pas facile. Voilà une des galaxies donc, qui est les plus distantes observées à ce jour, qui est donc 500 millions d'années après le Big Bang. Elle est observée dans différentes couleurs, depuis l'UV jusqu'à l'infrarouge. Vous voyez qu'elle est seulement détectée, ici ce petit point-là, seulement détectée dans l'infrarouge. Dans le visible et l'UV, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment une pêche à la ligne d'aller chercher ces petites signatures parmi le reste des objets qui sont beaucoup plus nombreux. Donc c'est une activité qui est, au niveau mondial, qui est un des objectifs les plus importants de l'astrophysique moderne, c'est vraiment de trouver ces premiers objets dans l'univers. Et le James Webb, ce nouveau télescope, va permettre d'y aller. Voilà de quoi il va avoir l'air. Donc c'est un télescope de 6,50 m de diamètre qui fait plusieurs segments de verre. Ce que vous voyez en bleu, c'est simplement un écran solaire qui permet de maintenir la température du télescope extrêmement froide, que ce ne soit pas chauffé par le soleil, et de permettre d'avoir un fond thermique du télescope extrêmement bas. Alors au passage, pour construire ce genre de choses, il y a beaucoup de technologies. C'est-à-dire que l'astronomie, ce n'est pas seulement des astronomes, c'est des ingénieurs, des techniciens, des agences européennes qui mettent en jeu donc, des savoir-faire qui sont extrêmement pointus. Et ces savoir-faire sont développés en partenariat entre les laboratoires de recherche et les industriels. Ici en France et à Marseille en particulier, on participe au développement de cette machine en construisant une partie des instruments qui sont au foyer de ce télescope. Alors ça, je vais passer plus vite parce que bon, c'est encore un projet. Il se trouve que ce soir, je vais à Amsterdam pour discuter de ça avec mes collègues européens. On espère qu'on va pouvoir lancer un télescope qui sera plus petit, qui aura un diamètre de 1,2 mètre de diamètre, mais qui sera capable d'observer tout le ciel et de mesurer des signatures de l'évolution de l'univers qui n'ont pas encore pu être observées, ce qu'on appelle les oscillations baryoniques acoustiques, que je ne vous expliquerai pas aujourd'hui, qui donne une signature dans ce fond cosmologique que je vous ai montré, le fameux 3 Kelvin. Donc on a des fluctuations qui sont observées, qui sont en fait le résidu de l'explosion primordiale, là aussi. Et on espère avec ce télescope d'aller mesurer à peu près 200 millions de galaxies, 200 millions de redshifts, regarder leur position dans l'espace et contraindre cette fameuse énergie noire, ces fameux 72% pour lesquels on ne sait pas encore ce que ça peut être. Donc on espère avoir une sonde spécifique pour aller essayer de comprendre de quoi il en retourne. Alors le dernier grand télescope qui est en gestation, c'est un télescope d'extrêmement grand diamètre, 42 mètres. Le miroir primaire, donc le collecteur du télescope, 42 mètres de diamètre, comparé au télescope de 8 ou 10 mètres qui existe aujourd'hui. Donc là encore, ça va être un bond phénoménal, puisque ça va nous permettre d'observer des objets qui sont à peu près 100 fois plus faibles que ce qu'on observe aujourd'hui. Et là aussi, aller titiller cette fameuse phase des premiers objets dans l'univers. Voilà, et ça, c'est le concept actuel qui est développé par l'ESO, donc l'Observatoire européen austral, qui devrait être installé au Chili à l'échéance de 2017-2018. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. C'est quoi un spectre ? Alors, donc un spectre, c'est... On va reprendre. Non, mais bon, c'est... Donc un spectre, c'est la lumière qui est émise à chacune des longueurs d'onde d'un objet. Alors, tu vas me dire, c'est quoi une longueur d'onde ? Une longueur d'onde, c'est bleu, vert, rouge. Bon, donc quand tu vois un arc-en-ciel, c'est un spectre. Tu as déjà vu un spectre, puisque un arc-en-ciel, c'est un spectre. C'est la lumière du soleil qui est dispersée par les petites gouttelettes d'eau dans les nuages. Donc ça forme un spectre, ça disperse depuis le bleu jusque dans le rouge. Donc là, on utilise le même genre de technique, on disperse la lumière avec un prisme. Donc ça, c'est un peu plus évolué que ça, mais là, le principe est de base, c'est ça. On disperse la lumière avec un prisme et on regarde. Donc la lumière, la luminosité qui est émise à chaque longueur d'onde. Donc là, les unités qui sont sur le côté, c'est des unités de flux lumineux. Donc plus cette courbe est élevée, plus il y a de flux lumineux qui est émis à une certaine longueur d'onde. Donc là, j'ai 2000 angstroms, j'ai un flux pas très élevé. Par contre, là, j'ai 6562 angstroms. L'arrêt de l'hydrogène, c'est l'émission la plus forte dans ce spectre. Voilà. Donc c'est ça un spectre, c'est vraiment un outil de base en physique qui est extrêmement utile. Vous avez eu au moins un collègue qui a eu le courage de poser une première question. Vous allez en poser d'autres quand même. Oui, alors il y a des angströms, il y a des nanomètres, il y a des. Voilà, il y a plein d'unités pour les longueurs d'onde. Voilà, c'est simplement il faut retenir voilà, qu'on va du bleu jusqu'au rouge. Bon, après, les unités elles-mêmes, c'est un peu accessoire, on va dire. Mais il y a une façon de coder, de coder les longueurs d'onde. Bon, voilà, il y a différentes façons de le faire. Une question. Question très intéressante, merci de l'avoir posée. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est une fois qu'on aura trouvé ces premiers objets, quelle sera notre quête suivante? Alors, on est très loin de comprendre l'ensemble des événements qui conduit depuis ces premiers objets jusqu'à une galaxie comme la nôtre. Hein, ces galaxies formées de plusieurs milliards d'étoiles, donc on voit les galaxies spirales sous forme de disques avec des bras spiraux. On voit des galaxies elliptiques qui sont beaucoup plus corpulentes, beaucoup plus, c'est une forme de un petit peu de noix. Quels ont été les processus physiques qui ont façonné ces galaxies spirales, ces galaxies elliptiques au cours du temps, hein? Donc on est encore très loin de comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà, ce scénario de formation et d'évolution, ben, on va le raffiner au cours du temps pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est vrai qu'à un moment, dans beaucoup de domaines en physique, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on pousse un domaine, on va comprendre 90% des phénomènes, et puis après, pour comprendre les 10% restants, les 1% restants, ça demande beaucoup d'efforts parce que les choses sont très complexes. Hein. Je fais une analogie avec la physique des particules que vous ne connaissez peut-être pas forcément encore. On a des très grands accélérateurs pour trouver de nouvelles particules. Bon, voilà, ça demande beaucoup d'efforts pour aller... comprendre les derniers détails d'une théorie ou d'une voilà. Donc on a encore beaucoup de travail à faire. Alors là, je vous ai parlé de cosmologie, mais dans l'astrophysique moderne, il y a beaucoup d'autres disciplines. Une dont vous avez peut-être aussi entendu parler, qui est la recherche des planètes extrasolaires, donc des planètes autour d'autres étoiles que notre Soleil. C'est une discipline très neuve aussi, où on trouve maintenant plusieurs centaines de planètes autour d'autres étoiles que notre Soleil. Et là, on essaie de comprendre comment ces planètes se sont formées autour d'étoiles pour essayer de comprendre nos origines, parce que tout ça touche à nos origines. Hein. L'origine de l'univers, c'est l'univers qui nous a créés. Hein. Vous êtes des poussières d'étoiles. Les planètes qui se sont formées autour d'étoiles, elles ont suivi un cycle de formation. Donc tout ça correspond à la quête des origines. Voilà. Vas-y. Alors la conséquence principale, en fait, c'est pas la rencontre. Tout le monde a entendu la question, c'est quand deux galaxies fusionnent, est-ce que des objets à l'intérieur des galaxies peuvent se rencontrer et quelles sont les conséquences? En fait, une galaxie, c'est plein de vide, malgré le fait que ça soit des milliards d'étoiles. C'est plein de vide. L'exemple le plus frappant, entre nous et l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, il y a quatre années-lumière. L'étoile est un point à ces échelles. Quand on regarde les deux étoiles, donc le Soleil et Proxima du Centaure, on se met un peu loin, 4 années-lumière entre les deux, c'est que du vide tout ça. Donc en fait, quand deux galaxies vont se rencontrer, c'est les effets gravitationnels qui vont être importants et non pas les effets de rencontre. C'est-à-dire que c'est la masse d'une galaxie qui va déterminer ce qui va se passer pendant les rencontres. Donc le cœur de la galaxie est très massif, va attirer un certain nombre d'étoiles, Et donc ça va changer les orbites des étoiles et ça va reconfigurer une nouvelle galaxie. On pense par exemple que la rencontre de deux galaxies spirales va former une galaxie elliptique. Ça a changé les orbites des étoiles dans la galaxie. Vas-y. Alors le Big Bang, bon, c'est ce qu'on appelle l'explosion primordiale. C'est un élément singulier où l'univers est infiniment petit et la température est infiniment élevée. Donc là, ça pose la question que j'ai posée dès le début, parce que c'était sûr que vous alliez la poser. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Alors, la réponse du scientifique, c'est de dire, avant le Big Bang, je ne peux pas observer, j'ai pas accès à des observables, donc ce n'est pas l'univers, c'est pas accessible aux scientifiques à la mesure. Hein, donc aujourd'hui, je dis avant le Big Bang, moi je ne peux pas en parler, je ne peux pas y accéder. Par contre, les religions, comme vous le savez, se sont faites fortes d'expliquer pourquoi, y a Dieu. Hein. Donc ça fait partie après du contexte de chacun, de savoir si la religion peut être une façon d'expliquer ce qu'il y avait avant le Big Bang, ou si on reste extrêmement cartésien en disant je ne peux pas l'observer, ça n'existe pas, donc j'en parle pas. Donc ça fait partie des débats qui nous animent au niveau plus philosophique qu'au niveau scientifique. Alors il y a des théories qui sont élaborées aujourd'hui, qui sont des théories où il y a des univers parallèles. Au lieu d'avoir quatre dimensions dans l'univers, il y aurait cinq dimensions, voire plus. Et ça pourrait faire en sorte que notre univers soit seulement un composant d'un ensemble plus grand qui serait un multi-univers. Mais là, les questions sont reportées à chaque niveau. Qu'est-ce qu'il y avait avant ces multi-univers, etc., etc. Donc voilà, on est à la limite de ce que peut faire la science. Et là, l'esprit humain est suffisamment riche pour inventer d'autres explications. Alors non, parce que sans ça, ça pourrait créer quelque chose de similaire à l'univers s'il y avait autant d'énergie. Par contre, c'est effectivement des événements qui sont extrêmement énergétiques, qui sont tellement énergétiques qu'on est capable de les observer quasiment jusqu'au fin fond de l'univers, alors que c'est une seule étoile. Là, c'est pas une galaxie avec des milliards d'étoiles, mais c'est une seule étoile qui va exploser, qu'on va être capable de voir. Alors il y a des phénomènes encore plus violents que les supernovas, qui sont des hypernovas qui émettent des rayonnements encore plus importants, qui émettent des rayons gamma qui sont des rayonnements encore plus puissants que les rayonnements visibles ou infrarouges. Donc il y a des phénomènes dans l'univers qui sont extrêmement violents. Ouais. Il y a une question là. Alors l'univers est en expansion. Donc ça c'est confirmé, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, hein, donc c'est le ballon qui se gonfle, mais cette expansion est en accélération, c'est-à-dire que le ballon se gonfle plus vite maintenant qu'il ne se gonflait dans le passé. Donc cette expansion accélérée fait que on pense que l'univers va continuer à s'accroître jusqu'à se diluer complètement. Voilà. Alors c'est effectivement une question très sérieuse parce que dans notre là on est à petite échelle, on est dans notre système solaire. Donc la formation d'un système solaire, en fait, c'est relativement simple. Donc je vous le fais bref. Il y a un nuage de gaz initial. Au cœur de ce nuage de gaz, la densité, la pression devient suffisamment forte pour qu'une étoile s'allume, hein, pour qu'il y ait des réactions thermonucléaires qui s'allument au cœur de ce nuage. Une étoile est née, hein, un soleil, et tout ce qui reste autour de ce gaz, avec des poussières, avec un certain nombre de choses, va avoir tendance à s'agglutiner en petits grumeaux. Les petits grumeaux vont avoir tendance à s'agglomérer en gros cailloux, les gros cailloux, etc., etc. Et donc on va former les astéroïdes, on va former des comètes, et puis après un certain temps, on va former des grosses planètes comme la Terre, Mars, Jupiter, etc. Par contre, une fois que cette formation est faite, un système solaire n'est pas propre. Il reste encore des cailloux. Et certains des cailloux peuvent être des gros cailloux. Un caillou d'un kilomètre de diamètre qui n'est pas identifié et qui vient percuter la Terre, c'est peut-être pas la fin, mais c'est un événement majeur. Il y a eu l'extinction des dinosaures, on pense qu'il a été produit par un impact majeur d'un très gros astéroïde sur la Terre. Donc ça, on a des évidences d'impact comme ça majeur, et à chaque coup on voit des évolutions donc au niveau des espèces à la surface de la Terre. Donc on espère qu'on ne va pas retomber dans un problème similaire. Alors, la plupart des gros corps qui pourraient détruire la Terre, tous les gros corps qui pourraient détruire la Terre ont été complètement répertoriés. C'est-à-dire qu'on connaît tous les gros astéroïdes du système solaire, ils sont suivis, leurs orbites sont connues, on peut prédire si on a un risque de collision. Et avec cela, le risque de collision, c'est clair, il est nul. Par contre, les plus petits cailloux, ceux qui sont de quelques centaines de mètres ou du kilomètre, on en a répertorié la plupart. Mais ce n'est pas complètement impossible qu'il y en ait encore qui aient échappé à notre sagacité et qu'il y en ait un qui soit dans une trajectoire de collision avec la Terre. Alors, il y a des programmes qui sont conduits, qui sont de suivi systématique, enfin de photos systématiques du ciel pour essayer de trouver ces objets qui sont en déplacement rapide et d'essayer de prévoir effectivement s'il y a un risque de collision ou pas. Bon, il y a des stratégies qui ont été développées de si effectivement on trouve un caillou qui risque de nous percuter, bon, est-ce qu'on envoie un satellite avec l'ensemble de nos bombes atomiques pour le dévier de sa trajectoire? Bon, voilà, il y a ce genre de choses qui ont été discutées. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul de ces cailloux qui est sur une trajectoire de collision avec la Terre. Vous pouvez dormir tranquille, 2012, pas de problème. Voilà. Bon, la plus proche rencontre qui a eu lieu au cours du dernier millénaire entre un gros caillou et la Terre, c'était un objet qui est passé à deux fois la distance Terre-Lune. Bon, ça laisse encore de la marge. Oui. Alors, déjà, il y a eu un débat à l'Union Astronomique Internationale qui est le forum de discussion des astronomes à l'échelle de la planète, où on a déclassé, il était proposé de déclasser Pluton en tant que planète. Parce que dans le scénario que je vous ai indiqué, de formation des planètes, donc il y a les petits grumeaux, les petits cailloux, etc. Donc il reste un certain nombre de fossiles de formation du système solaire qui sont plutôt de type astéroïde que de type planète. Et donc on pense que Pluton pourrait être un résidu de type astéroïde, et cette dixième planète hypothétique pourrait être aussi un résidu. Hein, donc voilà. Mais il n'y a pas d'évidence flagrante que ce corps existe. Bon, il a été postulé. Ce qui était intéressant de voir, c'est que la mécanique newtonienne, qui marche très bien au niveau du système solaire, avait prédit exactement où trouver Uranus et Neptune. Ce sont quand même des découvertes qui ont été faites grâce à la mécanique newtonienne, en disant, voilà, regardez à tel endroit, enfin, de par la perturbation observée sur les autres planètes, regardez à telle heure, à tel endroit, et vous allez voir qu'il y a une autre planète. Et ça a été effectivement le cas, donc c'était assez, assez remarquable. Et là, il n'y a pas d'évidence similaire qui tend à montrer qu'il y a une dixième planète. Mais bon, là, c'est vraiment beaucoup plus loin, les perturbations sont beaucoup plus ténues, etc. Il y avait d'autres questions ? Ah si, si, la Terre elle-même, la Terre elle-même est un agglomérat d'astéroïdes qui se sont percutés les uns les autres. Il suffit de regarder, si vous avez eu l'occasion de regarder la Lune, soit avec des jumelles, soit avec un télescope, la Lune est constellée de cratères. Et la Lune, c'est vraiment notre très proche banlieue, hein, c'est 300 000 km la Lune, hein, donc elle a été bombardée, la Terre a été bombardée comme la Lune. Sauf que la Terre a eu une atmosphère, il y a eu une évolution des continents, il y a eu un certain nombre de choses qui ont effacé les traces des cratères. Mais il y a certains endroits sur Terre où on peut voir des très beaux exemples encore de cratères. Il y a le Meteor Crater en Arizona, par exemple, qui a un impact, ça fait, je sais plus, un kilomètre de diamètre. Et on a des traces de cratères qui font à peu près 200 km de diamètre, en particulier dans le Yucatan au Mexique. Et on pense que c'est ça qui était à la cause de l'extinction des dinosaures. Donc oui, on s'est fait bombarder, mais il y a longtemps, au moment où le système solaire était encore très, très sale, avec plein de cailloux partout. Il fait chaud dans le soleil. Alors le soleil, le soleil, il est, bah, il est suffisant, il émet suffisamment d'énergie pour nous chauffer déjà, donc c'est pas mal. Le disque du soleil que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la chromosphère du soleil, la photosphère du soleil. Donc la photosphère, elle a une température qui est à peu près de 6000 degrés. 6000 degrés, bon, ça commence à être chaud déjà. Et quand vous, si vous étiez capable de pénétrer dans le Soleil, au cœur du Soleil, c'est plusieurs millions de degrés. C'est l'endroit où il y a toutes les réactions thermonucléaires qui produisent au final la lumière qui est émise par le Soleil. Mais le Soleil est une étoile relativement banale. Il y a des étoiles qui sont beaucoup plus chaudes, qui ont une surface, une température à la surface qui est plutôt de 30 000 degrés. Et qui dépasse les 10 millions de degrés au cœur. Oui.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer le phénomène de la nuit noire?
Alors oui, ça c'est le paradoxe d'Oblers. Alors ce paradoxe-là, il est effectivement intéressant parce que si l'univers était infini. L'univers infini rempli de galaxies et d'étoiles, même si elles étaient distribuées de façon inhomogène. Eh bien, on observerait, en fait, toute la surface du ciel devrait être brillante, parce que ce serait complètement couvert d'objets qui émettent de la lumière. Alors qu'en fait, on observe la nuit, elle est noire, effectivement. Donc c'est le paradoxe, et ce paradoxe, il est résolu par un univers à quatre dimensions qui est en expansion, avec un début et éventuellement une fin. C'est-à-dire que le fait que l'univers soit né à un certain moment, et que on ne remplit pas complètement l'univers à quatre dimensions, ça crée la nuit noire. Alors après, pour le prouver avec des équations, c'est pas évident. Mais c'est ça le principe. Alors, c'était le fameux camembert là, que j'ai montré. Donc tout ce qui est lumineux à partir d'atomes. Ouais. Donc les 5% qui sont ici, c'est ce qu'on appelle la matière visible. Donc c'est de la matière visible qui est constituée d'étoiles. Dans les étoiles, c'est essentiellement des atomes, de gaz. Des atomes, d'éléments lourds, des atomes, et puis de particules comme les neutrinos, mais là, vous voyez, c'est 0,3%. Donc oui, la matière lumineuse, c'est essentiellement des atomes. Alors, la matière noire, hein, donc les 23%, on en voit les effets gravitationnels. Hein, vous savez que quand vous mettez une masse à côté d'une autre, bah, y a une attraction qui s'exerce. Hein, c'est la gravité. Bon. Donc on est capable de voir, on observe une galaxie, la rotation des étoiles dans cette galaxie ne peut pas s'expliquer simplement en faisant la somme de la lumière. C'est-à-dire que si on calcule la masse de la galaxie, la masse lumineuse de la galaxie, elle n'est pas suffisante pour faire tourner les étoiles suffisamment vite. Donc il y a besoin de rajouter de la masse, et c'est à peu près, dans certaines galaxies, c'est à peu près un facteur 10, hein, donc ce n'est pas négligeable. Et c'est pour ça que c'est facilement mesurable, d'une certaine manière. Donc on voit la trace de cette matière. Il y a aussi une autre évidence, alors j'ai des images, mais ça va être un peu long à vous les retrouver, c'est ce qu'on appelle les mirages gravitationnels. Alors ça, c'est un truc absolument superbe. Ça avait été prédit par Einstein, qui avait prédit que s'il y a un alignement parfait entre une étoile et une autre étoile d'arrière-plan, eh bien on verrait cette étoile d'arrière-plan sous forme d'un anneau, l'anneau d'Einstein, simplement du fait de la théorie de la gravité, mais à ce moment-là mise au goût de la relativité. Ça a pris du temps, mais on a trouvé ce type d'objet. Donc on observe des arcs lumineux, éventuellement des anneaux lumineux dans l'univers, qui sont produits par la déflexion des rayons lumineux provenant d'une galaxie très lointaine, par une galaxie d'avant-plan. Et là, c'est magnifique parce que c'est une équation qui est très simple, qui relie donc la taille de cet anneau ou de cet arc observé à la masse de l'objet déflecteur. Donc là, on fait un petit calcul très simple et on a la masse du déflecteur. Et encore une fois, si on compare la masse nécessaire pour former ces fameux mirages gravitationnels, ces fameux anneaux, on se rend compte qu'il manque de la matière. La matière lumineuse n'est pas suffisante, donc il y a de la matière noire qui est nécessaire pour expliquer ça. Donc on en voit les effets, ils sont traçables, mesurables. On en fait même la cartographie, ce qu'on a fait l'année dernière, on a fait une cartographie de la matière noire jusqu'à la moitié de la vie de l'univers. Bon. Donc on en voit les effets, mais on n'a pas encore d'idée de ce que ça peut être. C'est probablement une particule très lourde, mais qui n'a pas encore pu être observée avec les accélérateurs de particules sur Terre. Alors ça, c'est pour la matière noire. L'énergie noire, on en voit les effets aussi, parce qu'on voit cet effet d'accélération de l'expansion. Mais là, c'est un peu plus compliqué, parce que alors c'est une constante qui a été mise dans les équations par Einstein, quand il a fait ses équations de la relativité, il a mis ce qu'il a appelé une constante cosmologique. Toute sa vie, il a dit, c'est ma plus grosse erreur, j'aurais jamais dû parler de cette constante cosmologique, parce qu'il en avait besoin pour faire que les équations marchent, qu'il avait rajouté cette constante. Et on y est revenu il y a 10 ans. Donc on a été obligé de rajouter cette constante dans les équations pour expliquer cette accélération de l'expansion. Et donc là, on est confronté à vraiment un mystère, parce que là, ça peut être, comme je dis, ça peut être les équations de la physique qui ne sont pas suffisamment exactes pour représenter ce que l'on observe. Une première hypothèse, ou alors vraiment, il y a encore des particules encore extrêmement exotiques qu'on n'a pas identifiées, qui seront identifiées dans le futur. Ouais. Alors, d'autres planètes habitées, ça aussi, c'est, je dirais que c'est la seconde grande quête. Hein, donc je vous ai parlé de la quête de la première lumière. La deuxième quête des astronomes aujourd'hui, c'est essayer de trouver s'il y a des planètes qui peuvent être qui présentent des caractéristiques similaires à la Terre. Alors, pendant longtemps, il y avait deux façons de voir. Soit on fait un petit calcul simple, on dit alors il y a des milliards de galaxies avec des milliards d'étoiles, donc ça fait des milliards de milliards d'étoiles comme le Soleil, et la probabilité pour qu'il y ait une planète comme la nôtre autour d'une étoile, ça paraît assez élevé, après avoir des milliards de milliards d'étoiles de disponibles. Bon. Alors ça, c'est un premier raisonnement. Un deuxième raisonnement, c'est de dire la chaîne d'événements qui a conduit à la vie sur la Terre est tellement extraordinaire que ça n'a plus se produire qu'une seule fois dans tout l'univers. Bon. Alors, on en est encore là parce qu'on n'a jamais trouvé d'évidence de vie ailleurs que sur Terre. Mais quand même, on a trouvé depuis maintenant 1995, hein, la première planète qui était trouvée autour d'une autre étoile. C'était à l'Observatoire de Haute-Provence, pas très loin d'ici. Depuis 1995, on a à peu près maintenant 400 planètes qui ont été trouvées autour d'autres étoiles que notre Soleil. Donc on commence à avoir une idée. Enfin, la formation des planètes, c'est quelque chose maintenant qui est tout à fait banal. Hein. Il fallait déjà le démontrer que ce n'était pas seulement autour de notre étoile qu'il y avait des planètes. Donc là, maintenant, c'est clair, il y a des planètes autour d'autres étoiles. Et on est en train de chercher, d'essayer d'identifier des planètes qui sont de même type que la Terre, des planètes telluriques, qui seraient à peu près à la même distance de leur étoile, etc., etc. Et ça fait partie des projets du futur, de développer des très grands télescopes pour aller mesurer ce type de planète et de montrer est-ce qu'elles sont similaires à la Terre, est-ce qu'on voit par exemple des signatures de la chlorophylle, des signatures de l'ozone, des signatures qui pourraient montrer qu'il y a une activité biologique sur la planète. Faire un spectre, un fameux spectre, mais un spectre d'une planète pour essayer de voir des signatures de... Voilà. Donc oui, c'est une des questions majeures. des atomes ou ça? Il me semblait avoir, que la question avait été déjà posée, mais oui, c'est la matière lumineuse, donc l'ensemble des étoiles qu'on observe, le gaz qui est entre les étoiles, oui, c'est des atomes qui émettent cette lumière. Alors ça s'approche, oui. C'est un chercheur chez moi qui s'appelle Magali Deloy qui a participé à cette découverte. Il y a un satellite qui s'appelle Kourou qui a été lancé il y a 3 ans et qui cherche ces planètes. Et, donc il y a une planète qui effectivement qui a des caractéristiques proches de la Terre, mais c'est 3 fois le diamètre de la Terre, c'est assez massif et elle est très proche de son étoile. Donc elle n'est pas encore dans les conditions, dans la zone, ce qu'on appelle la zone de vie. J'ai pas entendu. Alors oui, alors les trous noirs, ça c'est des objets exotiques qui sont très amusants parce que c'est des objets qui sont suffisamment, il y a suffisamment de densité de matière, suffisamment de matière dans un petit volume pour que même la lumière ne puisse pas s'échapper du trou noir. Alors la matière, on a observé plusieurs enfin, un certain nombre d'objets où on voit la matière qui est autour du trou noir, qui est en train de tomber sur le trou noir. Donc, ça émet en particulier des rayons X, qui sont des rayons très énergétiques. Donc il y a beaucoup d'émissions X autour des trous noirs. Alors quand ça tombe sur le trou noir, il y a des effets qui sont extrêmement, extrêmement complexes parce que l'espace-temps est extrêmement distordu. Et donc on se retrouve avec de la matière qui va enrichir, premièrement qui enrichit la masse du trou noir, donc le trou noir grossit. Il y a des trous noirs au centre de quasiment toutes les galaxies. Et cette matière, une fois qu'elle est là-dedans, il y a des prédictions théoriques qui nous disent que ça doit devenir, mais c'est pas, je ne peux pas vous l'expliquer en termes vraiment très, très simples, parce que c'est vraiment compliqué. Quand on se retrouve avec de la matière qui est, je vais dire distordue, mais c'est pas le bon mot. Il y a vraiment une complexité de l'espace-temps qui fait que la matière est, c'est une transition de phase quasiment. Bon. Merci à vous.